13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La période dans laquelle je vous emmène donc aujourd'hui est tout à fait exotique pour nous. C'est un de ces angles morts de l'histoire qui surprennent et font sourire, car tout y est différent de ce à quoi nous sommes habitués. À commencer par les noms propres, Clodomir, Théodebert, Odovert, Galesvint. Si vous attendez un enfant, c'est le moment de prendre des notes. Vous allez voir que les prénoms que nous allons avoir à rencontrer aujourd'hui sont assez folkloriques. La période, vous savez, est un petit peu comme ces terres inconnues dans lesquelles on a envie de se jeter à corps perdu car tout y semble à défricher. Période bien mal connue du reste et qui a bien mauvaise réputation. Période que l'on croit sombre parce qu'elle est coincée entre la fin de la brillante culture gallo-romaine et le début de la brillante culture carolingienne. Entre les deux, vous l'avez rapidement appris à l'école, il y a donc les Mérovingiens, avec leur cortège barbare de guerriers chevelus à moitié christianisés, d'évêques intrigants bénissant d'étranges sarcophages, de rois fainéants qui se laissent traîner en char à bœufs, voilà pour l'imagerie d'Épinal. Le plus célèbre roi franc de cette dynastie mérovingienne, c'est évidemment l'un de ses fondateurs, Clovis, dont le baptême est symboliquement considéré comme l'acte de naissance de la France. C'était lors de la veillée de Noël 496, à moins que ce ne soit lors de celle de 498. À l'époque, on note pas tout avec précision. Ce qui est certain, c'est que Clovis meurt en 511, que sa veuve, la reine Clotilde, lui survivra jusqu'en 548 et que notre histoire d'aujourd'hui va commencer une vingtaine d'années plus tard, un peu après 560. Alors avant de me suivre dans ces temps mérovingiens, il y a deux choses que vous devez savoir. La première, c'est qu'à cette époque, les barbares qui ont pris possession de la Gaule romaine en pleine décadence, ces barbares viennent tous plus ou moins des régions germaniques. Ce sont notamment des Francs, surtout au nord de la Loire, des Visigoths dans l'ouest et le sud, qui ont été donc vaincus par Clovis en 507 à Vouillé, et puis des Burgondes dans le sud-est. Ils ont été christianisés, ils restent encore très imprégnés néanmoins de leur culture d'origine, et notamment, ils reculent rarement devant un crime de sang. Vous savez, c'est la merveilleuse formule de l'historien Fustel de Coulanges au XIXe siècle qui disait que la royauté mérovingienne était, je cite, « un despotisme tempéré par l'assassinat ». La deuxième chose à savoir, pour bien comprendre notre histoire d'aujourd'hui, et on peut dire que ça découle de la même cause finalement, c'est que le mode de succession chez les rois francs n'est pas dynastique mais patrimonial. Autrement dit, quand un souverain meurt, son domaine n'est pas transmis d'un seul tenant à un héritier du trône, comme on le voit dans la plupart des monarchies. Là, il est partagé entre les différents fils. Alors c'est vrai, lorsqu'un des fils meurt, ses frères récupèrent leur part du royaume, et on peut même dire qu'en dépit de tous ces partages, on considère toujours l'ensemble du royaume des Francs comme une unité. Mais ça n'empêche pas qu'à la longue, on aboutisse à un morcellement territorial qui va faire le malheur des Mérovingiens. Alors maintenant que vous savez tout ça, vous êtes armés, je crois, pour pénétrer dans cette famille royale, dangereuse et même un peu sanguinolente. Je ne sais pas si ça vous dit, Julia, mais je crois qu'il faut qu'on y aille, néanmoins.
Il faut y aller, à un moment donné, il faut y aller.
Alors, bon, je vous ai dit que Clovis était mort en 511. Son royaume, le royaume franc, a été partagé entre ses quatre fils. Il y aura un roi d'Orléans, un roi de Paris, un roi de Reims, un roi de Soissons, qui chacun dispose d'un territoire, évidemment, assez étendu. Le dernier, le roi de Soissons, Clotaire Ier, vit très vieux pour l'époque, ce qui fait qu'il récupère l'essentiel de l'ancien territoire de son père et qu'il ne meurt à son tour qu'en 561. Du coup, en 561, il y a un nouveau partage, notamment entre ses quatre fils, mais notamment entre deux d'entre eux, un peu les frères ennemis, pour tout vous dire. Sigebert, qui va hériter un domaine vers l'est, et Chilpéric, auquel échoit un domaine plus à l'ouest, avec pour capitale Soissons. Soissons, eh bien, si vous voulez, on va s'y rendre en cette année 565. Pour ceux qui habiteraient Soissons en ce moment, il faut vous faire un effort d'imagination. La Soissons du VIe siècle était très différente de celle que nous connaissons.
«
L'ouverture de Norma sur Europe 1 de Vincenzo Bellini, Franck.
Nous sommes à Soissons en cette année 565. Chilpéric est parti se battre en Bretagne à ce moment-là et son épouse, la douce Audovaire, attend un quatrième enfant. C'est une petite fille qui naît, elle s'appelle Basine. Question de la pauvre Audovaire, qui est tout de même un brin naïve. Cette petite Basine, est-ce qu'il faut la baptiser tout de suite ou bien est-ce qu'il faudrait attendre le retour du roi Chilpéric? Alors la légende, je dis bien la légende, veut que cette reine de Soissons, bien embarrassée par cette épineuse question, ait pris conseil auprès d'une de ses servantes, une petite paysanne d'origine gauloise, tellement intelligente qu'elle a fini par devenir plus ou moins la confidente de la reine. « N'attendez pas, madame, baptisez-la, conseille la servante. » Mais alors qui sera la marraine? Et pourquoi pas vous-même? Tu as raison, conclut Audovaire. Et elle se dit que décidément cette servante est de bons conseils. Entre nous, elle porte un nom, la servante. Elle s'appelle Frédégonde. Elle porte aussi quelques appâts qui font d'elle une des plus belles femmes, peut-être la plus belle de la cour. Attention, je ne suis pas en train de vous parler de la cour de François Ier non plus. La concurrence ne devait pas être terrible. Le fait est néanmoins qu'elle est très belle, si belle Frédégonde en vérité, que depuis longtemps Chilpéric en a fait sa maîtresse, car en bon chef franc, ce roi a une épouse et puis tout un harem de concubines. Ça nous ramène un peu à l'émission d'hier, tout ça. D'ailleurs, quand Chilpéric rentre de la guerre, il se retrouve plus volontiers dans le giron de la petite Frédégonde qu'entre les bras de son épouse. Et c'est alors que la servante, et néanmoins concubine, va lâcher tranquillement son fiel sur l'oreiller, à supposer que les Mérovingiens aient fait déjà usage d'oreiller, ce qui n'est pas impossible, mais reste à démontrer. « Quel malheur, dit-elle, votre épouse, en devenant la marraine de votre fille, Basine donc, est devenue votre commère. L'Église vous interdit désormais de partager sa couche. » Car à l'époque, quand je vous dis que ce sont des temps exotiques, le fait d'être parrain ou marraine d'un enfant créait automatiquement, avec les parents de cet enfant, des liens fraternels. Donc pour le roi continuer de passer la nuit avec sa femme, qui était en même temps la marraine de leur fille, c'était commettre un inceste. Je vous le redis, ce subterfuge inventé par Frédégonde relève probablement de la légende, mais au-delà du débat sur sa plausibilité, il laisse entendre que la donzelle avait plus d'un tour dans son sac, et ça, la suite va nous le prouver, et nous le prouver amplement. Il faut dire aussi que Chilpéric ne semble pas avoir vraiment brillé par sa finesse, pour tout vous dire. Rien à voir avec son frère, le roi de Reims. Ah, ce frère, ce Sigebert, le roi de ce qu'on appellera bientôt l'Austrasie, lui déjà a choisi pour épouse une princesse de haut rang, la fille du roi Wisigoth, qui à l'époque règne sur presque toute l'Espagne. Autant dire le plus riche parti d'Occident, Brunhilde. Voici comment une ancienne chronique nous la décrit. Je cite, « C'était une jeune fille d'une taille élégante, de mœurs honnêtes, distinguées, sage dans sa conduite et agréable dans sa conversation. » Sigebert est amoureux de sa femme. Il l'a été au premier regard. Il l'a épousée en grande pompe, à Metz. Bien sûr, Chilpéric en a beaucoup entendu parler. Et d'emblée, il s'est montré jaloux de son frère. Il lui faut, à son tour, épouser une princesse espagnole. Et puisque l'autre, sa première épouse, là, a été mise depuis longtemps maintenant au couvent, elle a commis l'irréparable. Tant pis pour elle. Alors se dit Chilpéric, pourquoi pas la sœur aînée de Brunhilde, qui s'appelle Galsvint. Pour convaincre le roi Wisigoth de lui confier sa fille aînée, Chilpéric va devoir faire pas mal de concessions. Et la vérité, c'est que ce mariage ne va être rendu possible que par la mort d'un autre frère de Chilpéric et Sigebert, le roi de Paris. À la mort du frère, je vous l'ai dit, ce sont les autres frères qui se partagent son territoire. Et du coup, Chilpéric hérite comme ça de la plus grande partie de l'ouest de la Gaule, jusqu'au Béarn, à la Bigorre et au Comminges. Autrement dit, il est devenu le voisin immédiat des Wisigoths. Puisque la fille aînée du roi d'Espagne, si j'ose dire, était encore à marier, eh bien Chilpéric aurait dû se demander pourquoi son frère avait épousé la sœur cadette. Mais je vous dis, il n'est pas très malin, le roi de la nouvelle Neustrie. Il aura la réponse avant de s'être posé la question, c'est qu'en fait, la pauvre Galsvint est aussi ingrate physiquement que sa sœur est rayonnante. De sorte que notre Frédégonde, un temps délaissée, une fois passés les premiers émois et d'inévitables frayeurs, bien entendu, ne va pas tarder à retrouver le chemin de la couche de Chilpéric. Le traitement que peu à peu, cette simple concubine va parvenir à infliger à la reine en titre, un traitement d'une dureté incroyable nous montre chez Frédégonde un tempérament tout de même pas très humain, disons-le, en tout cas d'une grande dureté. Il y a vite de la répudiation dans l'air. Gales vint la pauvre, tellement malheureuse, tellement maltraitée et prête à abandonner sa fabuleuse dot, Achille Péric. Seulement celui-ci sait bien que le beau-père ne va pas l'entendre de cette oreille. Alors plutôt que de répudier Gales vint, il va procéder autrement. Sans doute inspiré par Frédégonde, il charge un obscur esclave d'aller tuer chez elle, dans sa chambre, la pauvre reine, après quoi, probablement, il supprimera lui-même le cerf. On ne sait pas tout ça, mais on le suppose. Ça paraît en tout cas très probable. Et voilà comment, nous raconte Anne Bernet dans la biographie qu'elle publie chez Pygmalion, voilà comment, un matin de l'automne 569, sa nourrice, en venant la réveiller, découvrit la reine Gales assassinée dans le lit où elle couchait seule. La veille au soir, le roi était allé retrouver sa maîtresse, donc Frédégonde. Chilpéric avait eu l'intention de faire passer cette mort pour naturelle, mais le meurtrier avait gâché la besogne en achevant sa victime au poignard. Le crime était patent, ses mobiles aussi, son commanditaire pareillement. Le roi avait beau sangloter à grand bruit sur le cadavre massacré de sa femme, personne ne fut dupe, lui seul avait organisé cet assassinat. Sauf qu'à la cour d'Austrasie, vous vous imaginez bien qu'en apprenant la nouvelle, la sœur de la victime, la reine Brunehilde, sait d'ores et déjà à qui imputer l'initiative de ce crime. Elle va demander réparation, on va s'acheminer vers un premier accord entre les deux frères, entre Chilpéric et Sigebert, qui finalement aboutira néanmoins à une lutte fratricide. On peut dire que désormais est née cette haine mutuelle extrême, inextinguible entre Brunehilde d'Austrasie et Frédégonde de Neustrie, une haine qui ne devait plus s'éteindre et qui allait entraîner de véritables ravages.